18h30 ici à Paris, c'est la journée mondiale de l'obésité.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et dans ce cadre-là, eh bien voilà une étude qui alerte, hein, étude publiée ce mardi dans The Lancet, la revue britannique. Il s'agit de projections, hein, selon lesquelles, eh bien d'ici 2050, si rien ne change, 60% des adultes et un tiers des enfants dans le monde seront en situation de surpoids ou d'obésité. Notre question ce soir, est-ce que l'obésité est une maladie comme les autres? Comment considérer ce fléau pour mieux y répondre? Quelles interrogations, les perspectives qui sont annoncées soulèvent-elles? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Anne-Sophie Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice du collectif national des associations d'obèses, autrice du livre « Je n'ai pas choisi d'être gros, grosse oui. ». Ça se lit dans les deux sens. Face à vous, Jean-François Amadieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président du Réseau national pour l'égalité des chances et auteur du livre « La société du paraître, les beaux, les jeunes et les autres ». Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir Olivier Ziegler.
Bonsoir.
Professeur émérite de nutrition à l'université de Lorraine, c'est dans l'est de la France, médecin au centre spécialisé de l'obésité de l'hôpital de Nancy. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Anne-Sophie Joly, première question, à partir de quand est-ce qu'on est en surpoids et à partir de quand on est en situation d'obésité?
Alors c'est plutôt Olivier Ziegler qui pourrait vous répondre parce qu'effectivement il est médecin. Moi je suis, j'ai envie de dire, que patiente et que de la société civile. En fait c'est rapport taille-poids au carré. Donc vous pouvez, si vous tapez comment mesurer son indice de masse corporelle sur votre téléphone, vous rentrez votre taille et puis votre poids et il va calculer effectivement votre IMC, votre indice de masse corporelle. Et à partir de là vous saurez si effectivement vous êtes dans une stature normale, en surpoids, en obésité, classe 1, classe 2, classe 3.
Olivier Ziegler, l'IMC, ça reste la référence pour mesurer si on est en surpoids ou en situation d'obésité?
Eh bien, oui et non. C'est une question qui est posée depuis 1948, date à laquelle l'OMS a reconnu l'obésité comme une maladie, mais depuis, le débat reste très ouvert. Et donc maintenant, les experts, y compris la Haute Autorité de Santé en France, réclament une autre définition. Il faut aller au-delà de l'IMC. Et donc, ce sont avec de nouveaux critères que l'on peut établir, en tout cas, la gravité ou la sévérité de l'obésité. La Haute Autorité de Santé a proposé une grille de classification, d'un côté, et de l'autre, une commission précisément qui s'appelle la commission Lancet a proposé une nouvelle forme de diagnostic. Alors, je m'explique. Pour parler des relations entre l'obésité et les maladies, hein, on a d'abord dit que c'était un facteur de risque. Facteur de risque de maladie, ça tout le monde est d'accord. Hein, il y a beaucoup de pathologies qui sont influencées par l'obésité. L'obésité peut même être une porte d'entrée, c'est-à-dire ça commence par de l'obésité, ça continue ensuite. Et puis c'est aussi un facteur aggravant. Par exemple, quand on a une maladie rénale, eh bien le fait d'être obèse aggrave l'évolution de cette maladie rénale. Mais justement, la nouveauté, c'est que ces experts internationaux, les meilleurs d'entre nous, ont proposé une nouvelle approche. Celle-ci est fondée sur des critères qui permettent de penser que les effets propres de l'obésité s'exercent au niveau de certains tissus ou organes et ont des effets défavorables pour la santé. Ils ont donc défini chez l'adulte 18 critères ou paramètres qui permettent de penser à une obésité qu'on appelle clinique, car responsable de signes cliniques, qui sont d'abord des signes relatifs à des altérations des fonctions de ces tissus ou des organes, ou même à des lésions, c'est-à-dire à des conséquences qui peuvent aller jusqu'à la défaillance d'organes.
Olivier Ziegler, ce que vous nous dites finalement, c'est que le problème, si on considère que l'IMC, donc indice de masse corporelle pour mesurer l'obésité, le calcul est un peu biaisé parce que c'est vrai que par exemple, on va se retrouver face à des sportifs qui auront une IMC importante, pour autant ils ne sont pas du tout en situation d'obésité.
Il faut regarder la masse musculaire, la masse graisseuse et puis le tour de taille abdominale aussi, qui est un facteur assez déterminant sur le sujet.
Parce que si on se réfère uniquement à l'IMC, et je l'ai testé, on y arrive très vite.
Oui.
À partir de 25, avec le calcul que vous avez fait, effectivement, diviser le poids par la taille au carré, on est considéré en surpoids, et à partir de 30,
on rentre dans l'obésité.
Est-ce
que vous êtes en muscle?
Je suis en dessous de 25.
Où est-ce
mais pas longtemps, pas loin.
Ouais,
mais pour 1m80, moi, je vais pas.
Oui.
Donc peut-être je vais délivrer mes mensurations aux auditeurs. Mais 1m85, 79 kilos, c'est pour avoir une idée.
Ouais, ouais.
Et on tombe à 23.
Ouais, mais faut... C'est pour ça que les balances à pédensimétrie sont plutôt pas trop mal parce que ça permet d'avoir un indicateur, en fait.
Donc c'est pas à jeter l'IMC.
Non, mais il suffit pas.
Okay.
Il n'est pas à jeter, mais il ne suffit pas. Et après, effectivement, le tour de taille abdominale, hein, Jean-François est d'accord.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs,
les spécialistes du Lancet le rappellent, mais c'est certain que le tour de taille, en fait, c'est un indicateur important pour des tas de raisons, c'est taille et hanche qu'il faut regarder aussi. Ouais. Et notamment le tour de taille, en effet, rapporté à la taille de la personne. Mais en effet, la question musculaire, beaucoup de sportifs, l'essentiel des rugbyman sont évidemment obèses. Mmh. Mais bon, ils jouent dans toutes les grandes équipes et
mais
c'est pas un problème.
Mais ils sont considérés comme obèses.
Ah bah oui, bien sûr, si vous regardez leur IMC, il n'y a aucun doute, hein, ils le sont. C'est pour ça que, attention...
Mais obèses au sens problématique du terme?
Non,
pas du tout. Leur IMC, leur indice de masse corporelle correspond à... Ils sont au-delà de 30, ça c'est clair.
Ils sont obèses, mais ils ne sont pas
malades.
Mais
oui, ils sont...
Non,
ils ne sont pas du tout malades, ils sont en forme. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il faut quand même ajouter
donc
que...
Donc on peut être obèse et pas malade.
Il peut y avoir des répercussions. Mais d'ailleurs, ce qui est très important, et c'est rappelé par l'étude du Lancet, mais on le sait, et Anne-Sophie le sait bien, il faut quand même faire une distinction importante entre déjà le surpoids et l'obésité. Or... vous savez, souvent, les deux notions sont liées, évidemment, et les effets dans notre société, s'agissant du surpoids, par exemple, tout ce qui va être stigmatisation, rejet du surpoids, le culte de la minceur, comme on dit, concerne les gens en surpoids, qui ne sont pas encore au début d'une obésité. Donc, ils ont un indice de masse corporelle qui est faible, en fait, ou modéré. Et donc, c'est pour ça que... Et ensuite, vous avez les différents, évidemment, différents niveaux dans l'obésité, selon votre indice de masse corporelle. Donc c'est pour ça que c'est bien, il faut en effet faire quand même des distinctions, parce que vous aviez raison de rappeler que pour un homme qui regarde son IMC, rapidement, vous allez vous constater que rien ne va et que tous les hommes sont en situation de... Bah, parce que c'est eux surtout d'ailleurs qui sont concernés.
Olivier Ziegler, 2,1 milliards d'adultes obèses ou en surpoids, près de 500 millions d'enfants dans le monde. C'est un chiffre qui a plus que doublé en 30 ans. Comment on peut expliquer cela ?
Eh bien, il y a plusieurs explications qui sont avancées. Hein, l'obésité, c'est une maladie génétique, polygénique, qui est très sensible aux interactions avec l'environnement. Et donc, c'est notre environnement qui a énormément changé. On parle d'ailleurs d'environnement obésogène, avec deux éléments majeurs, la baisse de l'activité physique et la sédentarité. Hein, ça, c'est la maladie des écrans. Et puis, d'autre part, le changement d'alimentation au profit d'une alimentation plus industrialisée, avec beaucoup d'aliments ultra transformés, qui sont plus denses en énergie et moins riches en nutriments et en micronutriments. Et puis enfin, il y a un gradient social qui est majeur dans les pays riches. Hein, ce sont les classes socialement défavorisées, les gens en situation de précarité, qui ont le plus haut risque d'obésité. Le facteur est de 3 à 4.
Anne-Sophie Joly, donc sédentarité et consommation d'aliments transformés sont des causes de l'obésité, nous dit Olivier Ziegler. C'est une maladie de notre siècle, alors ?
Exactement, c'est exactement
ça. Ou un fléau de notre siècle.
C'est la maladie du siècle, c'est la maladie de la société. Et Olivier Ziegler le disait très bien, et c'est ce qu'on a dit hier, le professeur était à nos côtés. On a fait nos premiers états généraux...
En présence du ministre de la Santé.
En présence du ministre de la Santé, Yannick Neuder, sous d'ailleurs son soutien du ministère de la Santé, et sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron. C'était un moment très très fort où là, effectivement, le ministre, enfin, des gens et des instances du ministère de la Santé étaient présents, ainsi que du ministère de l'Agriculture. C'est hyper important. C'est l'ultra transformation. C'est effectivement pourquoi les recettes sont autant enrichies en sel, en sucre, en gras saturé. Et nous, on demande très clairement à ce que effectivement ces recettes soient modifiées par les acteurs de l'agroalimentaire. Je sais qu'ils savent et ils peuvent le faire. Donc c'est des discussions à avoir avec eux. Parce qu'on a besoin de nourrir la population. Par contre, effectivement, c'est la façon dont on va la nourrir qui est hyper importante. Et je pense qu'il ne faut pas rentrer non plus dans la stigmatisation des populations qui font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une famille et que vous devez remplir les estomacs de 4 à 5 personnes avec des revenus modestes. Les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont.
Alors, cependant, parfois, les aliments transformés sont plus chers. Exactement. Que d'autres aliments. Et dès lors, ça veut dire que si on mange différemment, on peut éviter d'être obèse ?
Alors, éviter, j'irais peut-être pas jusque-là, parce que les facteurs d'obésité sont énormément nombreux.
C'est multifactoriel.
Et c'est exactement ça. Il y a une partie, effectivement, de gènes que vous allez récupérer. Il y a vos sensibilités. Il y a, effectivement, est-ce que vous avez de la sédentarité ? Est-ce que vous avez des traumas physiques et psychologiques ? Est-ce que l'alimentation, à un moment donné, ne va pas être votre antidépresseur aussi ? Ça va être le doudou de problèmes psychologiques qui vont intervenir à plusieurs niveaux. Et là, effectivement, je reviens sur mes familles que j'aime tant, parce que moi, je suis issue du nord de la France. Et il n'y avait pas grand-chose à manger à table. Mais on me disait, t'auras pas le pantalon, le jean qui coûte 150 euros. On partira pas aux Bahamas pendant 15 jours en inclusive. Mais tu auras toujours à manger à table. C'est une façon de donner de l'amour. Maintenant, c'est comment on peut accompagner les gens à donner de l'amour différemment sur des choses qu'on transforme soi-même. Et j'en viens au travail colossal qui est fait par le professeur Daniel Nizré, qui est président du PNNS4 et de la DGS, sur effectivement comment on peut accompagner au mieux les populations. Je m'inclus dedans nos populations, en n'étant pas stigmatisant ni discriminant, mais bienveillant.
D'après ce que vous dites, est-ce qu'on peut poser la question de est-ce que l'obésité peut être culturelle ?
Alors, ça dépend ce que vous entendez par culturel derrière, mais...
Selon, pourquoi est-ce que, par exemple, il y a des prévalences très fortes dans certaines régions ? Par exemple, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Océanie. Ça, ce sont les trois régions les plus touchées par l'obésité. Et alors, c'est ce qui ressort, par exemple, de l'étude qui a été publiée aujourd'hui dans The Lancet. Par exemple, les îles Tonga, c'est un petit pays au Pacifique. 70% des femmes sont... en situation d'obésité, et d'ici 2050, puisque cette étude est sur les projections, ce taux pourrait monter à 87%, c'est-à-dire quasiment 9 femmes sur 10.
Ça dépend des pays et des cultures. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des îles dans lesquelles, si vous n'êtes pas ronde, vous n'avez pas beaucoup de chance d'avoir un mari à la clé. C'est un critère de beauté.
Alors, ça va être intéressant d'entendre Jean-François Hamadi sur le sujet.
Je te passe le palo. Et je termine juste sur un sujet, c'est que, et pour d'autres, on a des pays qui se disent, mais finalement, on a été maigre pendant des siècles, et que c'est un signe de richesse que d'avoir du poids.
Jean-François Hamadi, alors c'est l'inverse de ce qu'on peut parfois observer en Occident et qui est au cœur de votre ouvrage, La société du paraître, les beaux, les jeunes et les autres.
Non, c'est pas tout à fait l'inverse, parce que dans beaucoup de pays où, effectivement, il y a eu pendant longtemps des gens qui, tout simplement, n'avaient pas de quoi manger, des situations de pauvreté. Et effectivement, la première raison, c'est que quand vous pouvez le faire, évidemment, ça peut conduire à une prise de poids, c'est ce que Anne-Sophie vient de dire. Maintenant, n'oublions pas que dans beaucoup de pays, ce dont on vient de parler, par exemple, il n'y a pas forcément dans les élites de prise de poids, parce que dans les élites, vous pouvez avoir en revanche des références, au fond, pour résumer, qui sont internationales et mondialisées, qui sont que, en réalité, les riches dans beaucoup de pays ne sont pas en surpoids, les femmes en particulier ne le sont pas. Donc c'est là qu'il faut quand même dans ces pays, faire des différences de ce type. Mais c'est vrai qu'il y a une composante aussi, comme vous disiez, culturelle, et Sophie le confirmait, selon les pays, d'ailleurs il y a eu déjà depuis longtemps des enquêtes sur le sujet, il y a des pays dans lesquels on valorise plus ou moins le surpoids, chez les femmes en particulier, c'est vrai. Les critères de beauté ne sont pas tout à fait similaires, c'est certain. La France, à ce titre, il faut le dire, est un pays où les femmes ne sont pas en surpoids ou obèses. Nous avons un taux qui est en fait plutôt modeste. La France est un pays où on valorise davantage la minceur que dans d'autres pays. C'est-à-dire, quand on dit valorise, c'est-à-dire qu'on rejette beaucoup, on stigmatise beaucoup, on n'apprécie pas la prise de poids, et en particulier chez les femmes, bien sûr. Et ça, c'est très français, on le sait depuis longtemps. C'est vrai que dans d'autres pays, alors en Asie, on peut trouver aussi parfois le même phénomène, mais c'est vrai que ça varie beaucoup d'un pays à l'autre, vous voyez. Donc c'est vrai que la perception, ce qui est beau ou pas beau, et surtout qu'est-ce qu'on accepte ou pas dans un pays. La France est très dure. Concrètement, il faut comprendre que les Français, si je résume un peu brutalement, mais c'est vrai que les Français sont particulièrement durs. On le voit dans des comparaisons internationales sur beaucoup de pays. Les Français sont très durs à l'égard des gens en surpoids.
Mais d'ailleurs, le mot grossophobe. Oui. C'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent. Oui, mais d'ailleurs, depuis le début de ce débat, vous avez évoqué, notamment vous, Anne-Sophie Joly, la discrimination. Donc, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'elle est de plus en plus importante, cette discrimination ?
Alors,
le terme grossophobie est juste ?
Après, ça dépend des individus et ce qu'on y met derrière. Le collectif que je préside a été commandé, entre guillemets, le ministère de la Santé, le ministre Yannick Neuder, et puis le PNNS et la direction de la DGS nous a confié le travail de faire un rapport sur la discrimination, la grossophobie, pour l'acceptation de la différence corporelle et emmener les gens à la prévention et au système de santé. Donc, dossier et rapport qui a été remis après 2 ans et demi de travail hier au ministre. Parce qu'on a quand même réussi à choper un ministre. Donc, le dossier a été remis au ministre. Il y a 108 propositions dedans qui sont rassemblées en 20 familles. Et effectivement, Jean-François le dit très bien, en France, on a une tolérance qui est quand même assez faible sur l'acceptation de la différence corporelle. Et là où c'est excessivement dur, alors, je te laisserai compléter, l'emploi, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être en obésité pour essayer de choper un emploi, parce que, tu disais très très bien dans une étude, à diplôme équivalent, âge équivalent, etc. Enfin, si vous avez un problème de poids, merci, au revoir, passez votre chemin. Et puis, au niveau des enfants dans les écoles et dans les études sup, au secours, le harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux et à l'école, c'est du massacre. Massacre. Il y a des TS et tentatives de suicide. C'est pas tolérable.
On va passer à la deuxième partie du débat, mais j'ai une dernière question qui amène justement vers notre deuxième partie. Est-ce que gravé dans le marbre le fait que l'obésité est une maladie peut permettre de faire reculer cette grossophobie, selon vous ?
Ah, merci. Alors là, je bois du petit lait. Il faut... Alors, il n'y a qu'à Faucon, on est bien d'accord. Moi, ça fait 25 ans que je milite sur le sujet. Si on veut réussir à avancer, alors que l'OMS a reconnu l'obésité comme étant une maladie depuis 1997, le Portugal, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne l'ont reconnu. La France fait énormément de choses et pourtant on n'a toujours pas appelé un chat un chat. Il est important que le président de la République et le Premier ministre, que j'appelle de mes voeux. Et là, effectivement, on a eu un signal fort parce qu'on a le haut patronage du président de la République sur notre colloque d'hier, des États généraux. Il est important qu'ils reconnaissent l'obésité comme étant une maladie parce que ça va mettre le pied à l'étrier sur tout un tas de process derrière, à commencer par quelque chose qui peut être à la fois bateau, mais tellement important, le fait qu'on ait une formation sans cursus initiaux de tous les professionnels de santé, avec pitié du matériel adapté, à commencer par les tensiomètres en consultation et avec des tables d'examen pour les dentistes et pour les gynéco-obstétriciens, parce qu'on est sur des refus de soins, on est sur des éloignements de soins, on est sur des pertes de chance, on est sur une inégalité aux soins, et ça, c'est juste pas possible. Et après, effectivement, le fait de le reconnaître comme étant une maladie, mais j'irais plus loin, la grande cause 2026, avec un plan interministériel sur 10 ans renouvelable, tel le plan cancer, avec un travail à 360 degrés, c'est impératif parce qu'on l'a dit en début, et je m'arrêterai là, c'est une maladie du siècle, quatrième cause de mortalité dans le monde. Mais c'est pour ça que attend quoi ?
J'ai posé la question, c'est une maladie du siècle ou un fléau du siècle pour ouvrir le débat, c'est j'ai bien compris que voilà, considérer l'obésité comme une maladie, le faire reconnaître, et d'ailleurs c'était l'objet d'une tribune que vous aviez écrite dans Le Monde en 2022 pour appeler à que ce soit une grande cause nationale, ça permet de mieux prendre en considération l'obésité aujourd'hui.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
L'obésité est-elle une maladie comme les autres ? La question qu'on pose à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'obésité, et alors que, eh bien, ce mardi, dans The Lancet, la revue médicale britannique, des projections alarmistes ont été publiées selon lesquelles d'ici 2050, si rien ne change dans le monde, 60% des adultes, un tiers des enfants seraient en situation de surpoids ou d'obésité. Mes trois invités sont Anne-Sophie Joly, fondatrice du collectif national des associations d'obèses, Jean-François Amadieu, sociologue et professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président du Réseau National pour l'égalité des chances, et Olivier Ziegler, qui est en ligne avec nous et à qui je vais à présent donner la parole, et qui est professeur émérite de nutrition à l'université de Lorraine, médecin au centre spécialisé de l'obésité de l'hôpital de Nancy. Vous avez entendu, Olivier Ziegler, le plaidoyer d'Anne-Sophie Joly en faveur d'une reconnaissance en tant que maladie de l'obésité. Mais la question que je vais vous poser, c'est pourquoi se pose-t-on la question aujourd'hui? Et je vais citer cet article, il est encore question de The Lancet. Ça avait été publié dans The Lancet, rédigé par plusieurs dizaines d'experts mondiaux. Et il y a ceci qui est écrit: l'idée de l'obésité en tant que maladie est au centre de l'un des débats les plus controversés et les plus polarisants de la médecine moderne. Pourquoi?
Oui, alors j'en parlais à l'instant. Eh bien, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients à reconnaître l'obésité comme maladie. Alors d'abord, les financeurs ont peur parce qu'il y a maintenant une partie importante de la population française qui est concernée. Et le coût des médicaments et des traitements, si d'aventure on les rembourse, va être important. Mais ce sera quelque chose de très positif pour la prévention des complications, et donc c'est très important. D'autre part, longtemps et encore actuellement, une partie de la population des sujets en situation d'obésité refuse ce qualificatif. On peut se mettre à leur place quand les sujets en situation d'obésité deviennent majoritaires dans un pays, sont-ils tous malades? Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de définir des critères qui permettent de préciser qui est malade ou qui ne l'est pas. C'est ce qu'a fait cette commission du Lancet.
Ouais. Oui, il y a l'idée de l'obésité préclinique et obésité clinique.
Voilà.
Obésité préclinique qui ne serait pas une maladie.
Pas encore.
Parce que pas assez de conséquences dangereuses pour la santé, à la différence de l'obésité clinique.
Voilà. C'est ce que dit, d'une autre façon, la Haute Autorité de Santé.
Jean-François Amadieu.
Alors, c'est très important de
considérer... Ouais, alors allez-y, terminez.
Oui, c'est très important de considérer cette question parce que beaucoup de professionnels de santé sont culpabilisants. C'est-à-dire qu'on estime que le sujet en situation d'obésité est coupable d'être en situation d'obésité car son comportement est déviant. Mmh. Et d'autre part, cette stigmatisation, elle s'internalise. C'est-à-dire que la personne finit par penser que c'est vrai ce qu'on dit. Ce rejet social est vrai. Et elle considère qu'elle le mérite. Mmh. Et à ce moment-là, il y a un renforcement de la dépression, de la baisse de l'estime de soi et tout ce qui s'ensuit.
Mmh. Oui. Jean-François Amadieu, alors pourquoi est-ce qu'il faut classer, selon vous, l'obésité comme maladie, mais parce que c'est une maladie, ou finalement pour justement changer de regard?
Exactement, ce qui vient d'être dit est très important. J'aurais dit exactement la même chose. Si vous voulez changer le regard, il est très important, bien entendu, que tout le monde comprenne que l'obésité, très largement, évidemment, je dirais, c'est pas un choix que les individus ont fait. C'est en effet, il y a d'abord des raisons génétiques pour une part, que d'autres, par ailleurs, si vous le traitez comme une maladie, en effet, ça évite de tout ce qu'on appelle le fait de rendre les gens responsables de tout simplement de leur prise de poids. Ça, c'est le premier point. Je voudrais ajouter autre chose, c'est que souvent, c'est un vieux débat. En France, il y aurait l'idée que si vous êtes considéré à un moment donné comme malade parce que vous êtes obèse ou parce que vous êtes en situation de handicap, pour prendre un deuxième exemple, même si ça arrive qu'on le fasse, effectivement, c'est rejeté par une partie des personnes qui sont obèses elles-mêmes, qui disent « mais non, ça va être pourquoi on me range dans cette catégorie ?» Par exemple, le handicap. Mais si vous regardez au plan international, dans, par exemple, les législations, comment on a fait les choses, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans différents pays, vous apercevez que, alors la France c'est particulière, mais dans beaucoup de pays, finalement, le fait de rattacher ou de considérer que quand vous êtes obèse, eh bien, c'est ce que fait l'Union européenne, par exemple, bah finalement, ça revient, par exemple, dans le domaine de l'emploi, à un handicap. Oui, c'est la réalité, mais évidemment, on voit les enjeux, parce que derrière, il y a des politiques aussi. Vous savez, les politiques de quotas, d'embauche, etc. Et puis, dans le droit américain, on a rattaché aussi, comme il n'y a pas la même chose qu'en France, avec une loi sur l'apparence physique qui permet de traiter de l'obésité, ils ont cherché des moyens de raccrocher ces motifs. Et du coup, ils ont été cherchés du côté de la maladie. Ah oui, parce que peut-être vous avez un diabète et du coup vous êtes obèse. Bref, on rattache soit au handicap, soit à la maladie le fait d'être en situation d'obésité. Mais en fait, c'est plutôt, je rejoins ce que dit Anne-Sophie Joly, c'est quand même plutôt positif de le traiter comme une maladie. Ça ne supprimera pas les discriminations, par exemple dans le domaine de l'emploi, parce que les employeurs n'aiment pas les gens malades, donc de toute façon, et en mauvaise santé, et qu'ils seront demain. Donc ça ne changera pas, de ce point de vue, grand-chose. Ce que ça changera, par contre, c'est de petit à petit, on desserrera cette... je ne vais pas me répéter.
Ça change le regard.
Ça change le regard.
Mais est-ce que parce que ça doit changer le regard, il faut considérer ça comme une maladie? C'est un...
C'est factuel. C'est d'ailleurs l'étude, enfin les experts du Lancet concluent de cette manière. Mais dans les premiers stades, c'est bien pour ça que vous aviez raison de rappeler, les premiers stades de la prise de poids, même de l'obésité, ne sont pas forcément à traiter comme une maladie.
C'est la question que je voulais poser à Sophie Joly. Vous distinguez l'obésité clinique, maladie, de l'obésité préclinique, qui n'est pas une maladie selon vous? C'est un état d'excès de poids sans graves conséquences sur la santé uniquement?
Je vais vous faire ma version.
Et puis j'aimerais aussi avoir votre avis, vous qui êtes fondatrice du Collectif National des Associations d'Obèses, puisqu'Olivier Ziegler disait que toutes les personnes en situation d'obésité ne veulent pas être considérées comme malades.
Oui, il y en a effectivement certaines qui ne veulent pas être considérées comme malades. Enfin, encore hier au colloque, il y a quelqu'un qui disait je suis en situation d'obésité, je ne suis pas malade. Mais il y a déjà une maladie du tissu adipeux, en fait. Il y a déjà un début. Si on reste avec une problématique de poids, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc, il y a ce que... Et je reviens sur votre question initiale sur la problématique de The Lancet, c'est que j'entends les discussions internationales des experts. Maintenant, moi, je vois aussi autre chose. Je suis très pragmatique. Les politiques de santé. La vision de la compréhension de la population générale. Je suis obèse, je suis pas obèse, je suis malade, je suis pas malade. Enfin, c'est quoi le truc? Il faut être excessivement clair, il faut être excessivement précis. On ne peut pas faire de politique générale de santé publique si à un moment donné, on n'est pas clair et qu'on ne dit pas les choses de façon très pragmatique pour que la population puisse comprendre à quel moment il faut rentrer dans un système de santé ou pas, à quel moment on fait de la prévention ou pas. Et j'ai envie de vous dire, je suis... Et je redis, de la société civile, je ne suis absolument pas professionnelle de santé et je suis une patiente. Moi, si je n'étais pas effectivement impliquée dans la problématique depuis 25 ans, je me dirais, les professeurs, les professionnels de santé se grattent la tête, mais moi, dans mon quotidien, c'est un problème.
Ah, mais un problème, c'est pas une maladie.
Ben oui, mais à un moment donné, quand vous arrivez, parce qu'il y a ça aussi, c'est pas reconnu comme une maladie. Donc en fait, je reviens là-dessus, on ne forme pas les professionnels de santé. C'est-à-dire que quand vous allez faire une anesthésie générale et qu'effectivement vous avez des gens en bloc opératoire qui vous disent « je ne vous prends pas, je ne vous opère pas parce que je ne suis pas formé, je ne vous opère pas vos genoux, je ne sais pas comment vous anesthésiez et c'est un danger », là c'est un problème.
Oh, je voudrais le mot de la fin parce qu'il nous reste une minute à Olivier Ziegler. Parce qu'on a ces perspectives de 60%, on a dit, de la population dans le monde adulte, un tiers des enfants qui seraient d'ici 2050, si rien ne change, en situation de surpoids ou d'obésité. Est-ce que classer officiellement l'obésité comme une maladie peut permettre de donner plus de moyens à l'avenir? Et quels moyens?
Incontestablement. Alors d'abord, je voudrais dire, en une seconde, il y a aussi la notion, comme Anne-Sophie le suggérait, de trajectoire. C'est ça qui est important. Donc, il y a une programmation biologique ou psychosociale vers l'obésité.
Okay.
Alors ensuite,
30 secondes, s'il vous plaît.
On déclare l'obésité comme une maladie, ça veut dire qu'on va mettre en place des moyens pour accompagner les gens en éducation thérapeutique pour les modifications du mode de vie. Ensuite, la deuxième ligne, ce sont les médicaments de l'obésité qui sont très efficaces. Il y a une révolution à ce sujet. Et la troisième ligne, c'est la chirurgie bariatrique. Il y a même, comme dans le cancer, des traitements multimodaux où on pourra commencer par le mode de vie, ensuite le médicament, ensuite la chirurgie, ensuite le médicament. On aura des traitements séquentiels, comme dans toutes les pathologies graves. Donc c'est très important, effectivement, à ce sujet, qu'une vraie maladie soit traitée avec des traitements comme toutes les autres maladies.
Anne-Sophie Joly, 10 secondes.
Et il y a l'innovation, effectivement, thérapeutique des médicaments, la présence des médicaments, qui est colossale pour l'arrivée des patients, et aussi des chirurgies non-invasives qui voient le jour de plus en plus. Donc ça, c'est aussi hyper important dans le traitement de l'obésité.
Il y a des traitements, car vous êtes d'accord pour dire que c'est une maladie, l'obésité, une maladie comme les autres. Merci beaucoup à vous trois, Sophie Joly, Jean-François Amadieu et Olivier Ziegler, et merci à Florence Ponce et Claude Battista à la préparation et réalisation de ce débat. Les coups d'œil à la pendule, dans une minute, ce sera le grand journal du soir avec Adrien Delgrange, et puis 30 secondes, 30 minutes plus tard, Afrique Soir, la première édition, Arthur Ponchetet, qui est à mes côtés pour évoquer le programme. Bonsoir Arthur.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Quel programme ce soir?
On est au Mali dans 30 minutes pour évoquer ces négociations en cours entre les rebelles du Front de Libération libération de l'Azawad et les djihadistes du Jnim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Direction ensuite le Tchad, où on a appris la libération cette nuit de deux chefs rebelles centrafricains. Ils étaient détenus depuis 11 mois à N'Djamena par les services de renseignement. On reviendra en détail sur cette affaire. Et puis notre dossier ce soir, consacré à ce procès très suivi qui s'est ouvert aujourd'hui en Tunisie, celui de 40 personnes, dont des figures politiques d'opposition. Elles sont notamment accusées de complot contre la sûreté de l'État.
Eh bien, merci Arthur Poncheté. On vous retrouve dans 30 minutes. Dans 30 secondes, c'est Adrien Delgrange pour le Grand Journal du Soir de ce mercredi.